mémoire du Couserans, quand ce dimanche matin, comme tous les dimanches matins, vous allez être heureux de retrouver Raymond Gabart, qui cette semaine va nous parler de quelque chose qui devient de plus en plus rare. Et Raymond, vous allez nous parler de l'eau.
Eh bien oui, alors c'est à ce sujet, il y a beaucoup à dire. J'ai baptisé mon émission, donc intitulée du moins, l'eau, trésor du Couserans, voilà. Et donc voilà, on va aujourd'hui, enfin cette semaine du moins, même sur deux semaines, on va parler d'eau, voilà. On avait fêté déjà il y a quelques années, donc une dizaine d'années, on avait fêté les journées mondiales de l'eau. En 93 déjà au niveau des Nations Unies, on s'était préoccupé justement de ce problème de l'eau. Et il se trouve que cette année également, c'est... l'année mondiale, donc au niveau mondial, donc de l'eau. Et alors, bonjour donc à tous mes fidèles auditeurs. Et donc, nous voilà revenus en Couserans, où l'on peut affirmer que c'est quand même notre richesse. Et à ce sujet, quand même, reconnaissons que nos ancêtres, par leurs actions, leur perspicacité, leur esprit également inventif, et parce qu'il y avait beaucoup d'esprit inventif, et surtout leur volonté d'entreprendre, ne s'était pas privé donc d'exploiter donc cette fameuse richesse. Voilà. Alors je vous suis fidèle au rendez-vous et je pense que ça va vous intéresser également. Donc sortons, si l'on peut dire, en ces temps que nous vivons la tête de l'eau et partons ensemble à la rencontre de ce joyau tant convoité aujourd'hui par certains. Promenons-nous tout d'abord dans la capitale du Couserans, qui est situé quand même aussi, et c'est le contexte, ça situé au confluent de trois rivières, que sont le Bop, le Lels, le Salat, ce qui ne manque pas aujourd'hui encore de surprendre le visiteur, car Saint-Giron, avec ses six ponts, le pont du Beau, les deux ponts sur le Lels, le pont Vieux, le pont Neuf, le pont de la Liberté, pont de fer, pont Eiffel, j'ajouterai, et ces quatre passerelles, bon, il y en a une qui est encore défectueuse, mais enfin, on croit voir que l'eau nous coule à nos pieds, aux pieds, vous voyez, d'un peu de quel que soit d'ailleurs l'endroit où on se trouve, sur un pont, où que l'on regarde, la perspective en plus est magnifique, offrant une vue panoramique sur des paysages environnants, tout l'environnement. Hein. Et alors, n'avait-on pas d'ailleurs, dans les années 30, ça je l'avais relevé, baptisé Saint-Giron, c'était très joli, très poétique, la Venise des Pyrénées. Et alors, c'est vrai que c'est poétique, d'accord, mais c'est aussi flatteur. Et l'on ne peut être qu'admiratif devant ce magnifique plan d'eau, et qui a été rétabli maintenant, qui s'étend tout le long du Champ de Mars, au pied du clocher, et ce fameux clocher qui se dédouble dans cette eau, disons, plus ou moins stagnante avant la grille, la digue, tout comme le château des Vicomtes. Et dans ce miroir limpide, reflet d'argent lorsque le soleil brille. Et alors ce Salat, qui à lui seul est une légende aussi, et qui fut même un temps navigable, c'est toujours d'ailleurs la véritable épine dorsale du Couserans. Et il prend sa source au cœur des Pyrénées, et il se jette dans la Garonne, et non pas dans l'Ariège, dans la rivière Ariège. Et ça, c'est quand même aussi un autre signe. Alors, on peut se demander à ce sujet, d'ailleurs, une fois de plus, que fait le Couserans, qui est un pays gascon, dans ce département de l'Ariège? Moi, il y a longtemps qu'on se pose la question, on a la réponse, il n'y fait absolument rien, voilà. Mais cela est une autre histoire. Alors, revenons à des choses plus poétiques, et qui peuvent faire rêver, car le Salat, donc comme j'ai dit, qui prend sa source au-dessus du petit village de Salo, c'est ce village donc du bout du monde, riche d'histoire quand même, et pourtant oublié aussi par beaucoup trop. Et il y a donc au-dessus de ce village un lieu enchanteur, presque mystérieux, J'en avais souvent parlé dans un écrin de verdure, d'où l'on n'entend que le bruit de la nature, les oiseaux, le frémissement des feuilles, le glougloutement de l'eau, et cette eau qui coule, qui arrive de partout, donc qui ruisselle, de petits ruisseaux qui semblent donc se frayer un passage, on peut repérer donc ces fameuses petites fontaines, les neuf fontaines, hein, puisque le Salat, c'est un lieu mythique, donc, appelé d'ailleurs les neuf fontaines. Et c'est un à la fois reposant, apaisant, et ça peut-être appelle à la méditation, car il est issu d'une légende, cette fameuse légende triste et romantique à la fois, avec ses neuf sources qui paraissent donc bien frêles et fragiles, et dont jaillit bien plus loin un torrent capricieux. Et alors cette légende veut qu'une belle et riche princesse espagnole, l'amour brisé dans son cœur de 20 ans, égarée par son chagrin, s'endormit, noyée dans ses pleurs, peut-être pour toujours. Mais une fée vêtue de lumière se glisse jusqu'à ses pieds, et neuf Edelweiss frémissent à la bouche de la fée. Une à une, elle prit ses fleurs de velours et les jeta sur les larmes de la princesse Carmela. Alors c'était une princesse espagnole, donc, et Carmela, dit Bassano, encore endormie, puis cette fée disparut. Plus tard, la princesse se réveilla au doux clapotis de l'eau vierge au reflet d'argent, et de ses neuf larmes avaient jailli neuf sources. C'est pas beau ça, et ça a fait le thème d'ailleurs l'été dernier de magnifiques spectacles donc sur le Salat au niveau du Champ de Mars donc par l'association autrefois le Couserin, voilà. Et alors ce torrent fougueux qu'est le Salat donc qui avait déjà disons séduit les Romains fut un temps maîtrisé même navigable comme je dis de Seix à Saint-Girons. Et Saint-Girons, ou à la hauteur de la promenade du Champ de Mars, il y avait même un port. Ainsi, longtemps, c'était le seul moyen de transport, ce qui pouvait permettre de charrier, grumes, bois de construction, blocs de marbre, des carrières de Seix. Mais le Salat a aussi charrié de l'or. Et oui, il a été reconnu aurifère. Il a attiré, du moins au cours des siècles, les orpailleurs, les aventuriers en quête de fortune, se contentant quand même de quelques paillettes de or, par contre, très pures, titrant 24 carats. Voilà, vous voyez cet or qui a fait beaucoup parler. Alors que dire aussi de la pureté de son eau? Ce qui a amené il y a plus de deux siècles, même un peu plus, ça avait été déterminant donc pour la fabrication du papier. Et alors qu'il existait déjà de nombreux moulins à huile, à grains, et c'est ainsi que Saint-Girons, qui se situe, c'est le pays aux 18 vallées, mais au confluent de ces trois cours d'eau donc, que j'ai cités, qui prend donc le Salat, donc, qui étant le principal, bien entendu, et ce qui a permis, donc, à partir d'une bonne cinquantaine quand même d'affluents, et de ces trois cours d'eau, donc, même il y a des lacs, et d'ajouter de nombreux lacs, voilà, dans ces magnifiques montagnes couseranaises. Et puis, il ne faut pas oublier toutes ces cascades qui, de tout temps, ont fait l'admiration des excursionnistes, comme on les appelait, et notamment la célèbre cascade d'Ars, située au-dessus d'Aulus, donc, d'une hauteur assez importante, avec qui se peut se classer comme deux ou troisième des Pyrénées, mais c'est quand même, moi j'estime, la plus belle. Et la plus belle des Pyrénées, de par sa dimension, bon, mais incontestablement, surtout dans son environnement. Et elle est visible à l'œil nu à des kilomètres, et surtout facile d'accès. Ça aussi, c'est un véritable joyau de notre petit pays, le Couserans. Et alors, si toute cette eau dont nous a gratifié la nature a parfois été convoitée, incontestablement quand même, les hommes, voyant là une richesse à leur portée, se sont employés à l'exploiter. Et en remontant le temps, on trouve sur ces nombreux cours d'eau une multitude de moulins à grains, mais aussi à huile, énormément de scieries. Et puis, il faut penser que les premiers moulins à papier donc, vont apparaître dans les années 1640-1650 et proliférer donc, pour donner naissance à une importante industrie papetière. Et cette industrie donc, qui a fait vivre de nombreux Couseranais. Et il y a encore peu d'années, donc, elle faisait, cette industrie papetière, le renom de Saint-Girons, voilà. Plus tard, sont apparues les centrales électriques. Et en 1937, c'est le Dely, au-dessus de Saint-Ain, alimenté par les cours d'eau, également le fameux, l'étang d'Arrain. Celle de la Cour, sur le Salate, je crois qu'elle a été construite en 1932, moins importante aussi, c'est le Dercé sur le Garbet, et donc également à route sur le Lesse, c'est cette petite centrale qui était destinée à alimenter les tramways électriques donc, du Couserans. Hein. Ça a été une sacrée aventure. Voilà. Et puis il y avait deux lignes, Oust, Aulus, et Saint-Girons, Castillon, Saint-Ain. Et là encore, il faudra que je me décide à en parler en détail un jour, et parce que cette aventure, on la doit à des gens entreprenants. Et à ce sujet, comme je vous dis, je sais que vous êtes fidèles, on fera certainement plusieurs émissions sur ces histoires de tramways. Et moi, ça m'avait passionné depuis fort longtemps, les tramways électriques, voilà, du Couserans. C'était quand même, pour l'époque, hein, et on remonte dans les années 15-20, un transport des plus écologiques. Et vous voyez, on ne parlait pas d'écologie, mais ça en était un, voilà. Et maintenant, c'est un nouveau mot qu'on emploie à la mode, et qui est à la mode. Et alors, pour rester dans ce domaine, avec la production d'électricité, avec la maîtrise des chutes d'eau, et ce, grâce à l'invention, au tout début du siècle dernier, d'un Couseranais, Aristide Bergès, qui est un véritable génie, et qui sera d'ailleurs à ce sujet baptisé le père de la houille blanche. Et avec le recul, quand même, reconnaissons qu'on lui doit beaucoup. Encore de nos jours, on constate que l'on produit de l'électricité propre grâce à la force de l'eau, et donc avec la mise en service de centrales, ou plus familièrement maintenant, de micro-centrales. Mais on imagine quand même l'étonnement de nos ancêtres à la vue du scintillement, disons, des petites résistances de la première ampoule électrique. Et alors, il y en avait au début une seule par maison, et parce que ça allait remplacer bien sûr les bougies, les lampes à huile ou autres Auribus. Et Auribus, c'était, j'avais expliqué ce que c'était pour s'éclairer au coin des cheminées. Alors c'est vrai que c'était pour l'époque miraculeux cette lumière. Voilà. Mais bien avant, non loin de Saint-Girons aussi, et il faut penser qu'il y a eu de nombreuses sources, dont certaines miraculeuses. Et une qui est, dont j'avais parlé, parce qu'elle a une belle histoire aussi, c'est celle du village des Chéis, la fontaine sacrée du genou, la Hunt del Jun. et cette fameuse source dont on fait encore la fête encore, mais ça avait disparu. Alors j'avais raconté, il y a toute une légende à ce sujet, et d'ailleurs ce fut à partir de ce village que qui a été la destination d'un important pèlerinage. Et alors quand je vous dis que l'eau est sacrée, cette eau qui a fait longtemps partie de l'environnement des Saint-Gironnais, car elle a coulé abondamment dans les nombreux lavoirs répartis dans toute la ville, mais surtout dans les kilomètres de caniveaux, ces fameux caniveaux pour beaucoup en marbre, qui bordaient rues et ruelles. Et oui, nous avons à Saint-Giron, ce qui est unique, et c'est dommage parce qu'on en a détruit beaucoup, des rigoles en marbre. Hein. En effet, depuis le jour où le maire Hippolyte Trinquet va réaliser, et c'était en 1885, la distribution de l'eau dans toute la ville. Et nous sommes en 1885. Alors, je vous laisse imaginer quand même le progrès que l'on doit donc à Hippolyte Trinquet, qui va s'employer à faire installer ce que l'on appelait également des bornes fontaines. Et ce, dans tous les quartiers. Et également, je crois que c'est un peu avant 1900, au cimetière, on appelait ça des bornes fontaines. Et des bornes fontaines, et on en trouvait pratiquement dans toute la ville, ces fameuses bornes fontaines. Par la suite, ses successeurs, donc à ce maire, qui est un véritable bâtisseur, vont poursuivre son œuvre. Et c'est ainsi que dans les années 1910, pratiquement toutes les rues principales et les places seront équipées d'une fontaine. Et alors, elles étaient à la fois décoratives et fonctionnelles. Et surtout, elles étaient très appréciées des riverains, qui avaient pris l'habitude d'y tirer cette eau fraîche et limpide, et surtout en été. Également, ça faisait le bonheur des touristes, également des animaux, des chiens, il y en avait beaucoup moins, mais ils allaient s'abreuver dans ces fontaines qui coulaient en permanence. C'est vrai que l'eau n'était pas très chère, mais voilà, c'était surtout rafraîchissant en été. Et alors, ces fontaines, ces belles fontaines en fonte, à décor moulé, bien souvent équipées d'un robinet en cuivre, j'en avais recensé pratiquement partout, à l'Edard, à l'avenue de Foix, quartier de la Gare, l'avenue Gallieni, le pont du Beau, le quartier d'Olotte également, dans toutes les rues, les places également, il y avait au minimum une ou deux bornes fontaines. Parce qu'elles ont disparu, attaché à essayer de les recenser, je pense que j'arrivais à près d'une trentaine. Aujourd'hui, elles ont pratiquement toutes disparu, elles ont été détruites, et là encore, mais c'est bien trop tard maintenant, un patrimoine qui a été saccagé. Voilà, moi je dis ça. Mais quand même la plus décorative, que l'on connaît d'après des photos, des cartes postales surtout, c'était celle de la place des Esquives. De la place des Esquives, actuellement place Vaillant-Couturier, en forme de borne assez haute, avec ses quatre écoulements et puis son petit bassin circulaire, et qui servait entre autres d'abreuvoir aux chevaux très nombreux, des très nombreux attelages. Il y avait nombreux attelages dans ces années avant 1900 et après, jusqu'aux années au moins 1910, et notamment les attelages des diligences et autres patages qui reliaient plusieurs fois par jour la capitale du Couserans aux différentes vallées. Et on allait vers Massat, Sainte-Croix, Castillon, mais également aussi vers Saint-Étienne, Oulu, Seix, Audinac, Bédeille. Pourquoi ? Parce que ces villages étaient cinq stations thermales, aux eaux bienfaisantes et parfois miraculeuses. Oui, j'en ai déjà parlé. Et alors cette fontaine qui était jolie, moi j'aurais vu une reconstitution de cette fontaine au lieu d'y mettre deux trois voitures, hein, et ça aurait été un joli décor avec un petit filet d'eau qui coulait. Donc on ne la connaît plus maintenant qu'avec ces photos de cartes postales. Et c'était typique à Saint-Girons, tout ça, voilà. Et donc, c'est vrai que quand je vous dis que l'eau était précieuse, alors quant aux sources miraculeuses, puisque on en reparlera, alors ce n'est pas des sources très connues, mais je vous en citerai quelques-unes, donc aux alentours de Saint-Girons, dans nos campagnes également, d'après des témoignages d'anciens que j'avais recueillis à 20, 30, jusqu'à 40 ans, et non seulement il y avait une eau pure, et l'eau de source qui n'était pas traitée, mais il y avait certaines eaux, donc il y avait des pouvoirs, voilà. Il y avait des pouvoirs. Et donc, il y a encore beaucoup à dire. Hein. Alors, ça coule de source, j'ajouterai. Et moi, je suis certain que je vous ai mis l'eau à la bouche. C'est sûr, oui, je vous ai mis à la bouche. Donc, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour la suite de mes histoires d'eau. Combien passionnante. D'après les sondages, d'ailleurs, quand j'ai dit que j'allais parler d'eau, oui, c'est un truc intéressant. Vous verrez d'ailleurs que même là, au niveau de Saint-Girons, les associations ou autres se sont motivées, il y a déjà plusieurs années, donc, pour essayer de revaloriser donc, cette eau. Et moi, je regrette, je le dis assez souvent sur cette antenne, que la ville de Saint-Girons, par rapport aux autres villes environnantes, Tarbes, Murette, Saint-Gaudens, il y a énormément de pots partout, Perpignan même, vous voyez, il n'y a même pas un jet d'eau ou un petit bassin d'eau dans un repoint Saint-Girons ou autre. Et j'ai même suggéré, puisque le nouvel aménagement du parc du tribunal, d'y installer un petit point d'eau, un petit jet d'eau, c'est rafraîchissant, c'est reposant, c'est joli, mais bon, peut-être un jour je serai entendu, voilà. Alors, je vous le redis, on n'écoute pas Gabart par hasard, donc rendez-vous pour la suite de mes histoires d'eau.